sur cette série de la foi. J'espère que cette série-là, eh bien, elle vous aide. Vous savez, les chrétiens qui sont nés de nouveau n'ont pas 36 manières de vivre. Parce que la Bible dit que nous devons vivre par la foi. C'est-à-dire que nous devons vivre en faisant confiance à Dieu. Et le fait... Alors, on va voir comment faire confiance à Dieu. Je suis en train de chercher. Voilà, c'est ça. Comment faire confiance à Dieu? C'est dommage de voir, de rencontrer des chrétiens qui, au bout de 10 ans, on voit que rien n'a changé dans leur vie. Et ça, c'est anormal. Parce que la Bible nous dit que Dieu est vie. Donc, Dieu ne change pas. C'est avec moi, Dieu ne change pas. Néanmoins, Dieu est continuellement en mouvement. Continuellement en mouvement. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Ben, il nous amène avec lui. Donc, vous réalisez que si notre vie n'a pas changé depuis 10 ans, eh ben, il y a juste quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu le salut, non. Mais il y a une connexion avec Dieu que l'on n'a pas. Notre communion est défaillante. Alors, on va revoir ce passage, ce message de la foi. Romains chapitre 3, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, verset 3. Il est dit, « Quoi donc, si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ?» Alors, qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez comme version? Voilà. Et quoi? Si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Vous savez, l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils se... Ils ont tendance à trop se tourner vers le Seigneur avec un doigt accusateur quand les choses ne vont pas comme ils veulent. Et parfois, quand les choses ne vont pas comme ils veulent, eh bien, au lieu de dire « Attends là, Dieu est quelqu'un qui ne ment pas. » Donc, si Dieu ne ment pas et que j'ai lu quelque chose qu'il m'a promis, cela veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que moi, je ne comprends pas. Donc, ça, c'est une réflexion. Et puis après, quelquefois, il se compare avec d'autres. Il se compare à d'autres. Il dit, ouais, mais tu comprends, pour lui non plus, ce qu'il a demandé au Seigneur, il ne l'a pas eu. Et l'idée, c'est, eh bien, si Dieu ne m'a pas donné ce que je demandais, alors cela veut dire qu'il est infidèle. Et cela veut dire que moi, du coup, je peux être infidèle. Et quelquefois, on regarde la vie des autres, on dit, mais regarde, eux, ils ne marchent plus avec Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle. La Bible dit non. La Bible, alors, le mot foi et le mot fidélité, c'est exactement le même. Les mots sont interchangeables. Parce que notre foi en Dieu repose sur sa fidélité. Mais ici, il est dit que si certains, cette version dit, et quoi ? Si quelques-uns ont manqué de foi, leur manque de foi réduira-t-il à rien la foi de Dieu? C'est-à-dire, ne juge pas Dieu en le rabaissant au niveau humain. Dieu n'est pas un homme. Alors, on a entendu cette phrase. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais Dieu n'est pas un homme tout court. Jésus est venu en tant qu'homme. Il ne faut pas oublier qu'il est Dieu et qu'en tant qu'homme, il n'a jamais menti. Dieu le Père est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Jésus porte un corps et un corps glorifié. Oui, néanmoins, il est aussi Dieu et Dieu ne ment pas. Et je vais vous dire une chose. Se triturer l'âme, il nous est dit par exemple, je pense souvent à cela, que Lot, je ne sais pas si vous vous rappelez, Lot était dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Lot était le neveu d'Abraham et il se trouve qu'à un moment, il a commencé à envier quelque chose. Donc il a pris le prétexte des troupeaux. Il a dit, écoute, tonton Ab, il se trouve que, regarde un peu, il y a des disputes entre tes bergers et les miens, parce que ben, entre nos deux troupeaux qui ont tellement prospéré, on n'a plus suffisamment de place. Et il se trouve que ben, nos bergers se disputent entre eux. Donc il y a peut-être un problème de leadership là. Première réflexion. Et puis ensuite, Abraham était quelqu'un qui avait montré à son neveu comment marcher par la foi. Donc il suffisait. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on ne peut pas comparer ce qui arrive à quelqu'un, ce qui arrive quelque chose de négatif à quelqu'un, et puis se retourner vers le Seigneur en disant, tu vois, ben, lui-même, lui, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que toi, tu as un problème. Ben, c'est ce que ça veut dire. Si jamais je résume un petit peu le truc, c'est ce que ça veut dire. Et en revanche, on doit se laisser inspirer par la foi des autres. Et Lot s'était laissé inspirer par la foi de son oncle. Et parce qu'il s'était laissé inspirer et qu'il avait accepté ce style de foi qui repose sur la fidélité de Dieu, qui repose sur une alliance avec Dieu, Lot avait prospéré. C'est pas simplement Abraham, mais Lot, en s'inspirant de la foi de son oncle et en apprenant de son oncle, il avait prospéré. Et puis il a utilisé le prétexte des troupeaux pour se séparer de son oncle. Peut-être qu'à un moment, eh bien oui, le Seigneur aurait voulu que Lot se sépare de son oncle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que le moment était venu parce qu'il s'est séparé en utilisant un argument, l'argument des bergers qui se disputaient, et surtout la solution qu'il a proposée. C'était aller du côté de la plaine. Mais c'était un méga compromis, parce que la plaine en question était une plaine qui était connue pour le problème, le péché de l'homosexualité. Et la Bible nous dit qu'il est allé. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'Abraham fasse ? Ben, Abraham n'allait pas s'accrocher aux chevilles de Lot en disant, oh, s'il te plaît, n'y va pas. Et Lot traîne son oncle jusqu'à ce qu'Abraham lâche les chevilles de Lot. Et enfin, Lot était libre. C'est pas comme cela. Entre adultes, on ne fait pas ça. C'est, on parle. Et puis, tu veux quand même partir ? Eh bien, il se trouve que je ne peux rien faire. Tu es un adulte, je ne peux rien faire. Tu peux empêcher un enfant de 2 ans de faire ce qu'il veut, tu ne peux pas empêcher un adulte de faire ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Donc Abraham, connaissant Dieu, a dit, écoute, va Lot, vas-y. Et il s'est retrouvé dans un endroit où il n'aurait jamais dû s'y retrouver. Alors tu peux dire, mais comment sais-tu que ce n'est pas Dieu qui l'envoyait pour évangéliser ? D'abord parce que ce n'était pas du tout dans la culture de l'époque, ce n'est pas la culture juive. Les juifs ne sont pas des évangélistes. Les juifs sont des porteurs de lumière, ce qui est différent. Et il se trouve que Lot, donc, n'a pas été envoyé par le Seigneur. Et comment est-ce que je sais qu'il n'a pas été envoyé par le Seigneur pour être une lumière ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y est allé à cause de la convoitise. C'était la convoitise qui l'a amené, pas le Seigneur. Et la Bible nous dit que Lot tourmentait. Écoutez-moi bien, c'était même pas le diable. Il n'avait même pas besoin du diable. Il tourmentait quotidiennement son âme. À cause de quoi ? De ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Et franchement, je n'aurais pas voulu voir et entendre. Je pense que vous et moi ne connaissons pas ce degré, en tout cas j'espère, que personne ne connaît ce degré de péché-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, on sait que Lot est quelqu'un qui a fini par avoir une certaine notoriété, une position d'autorité dans cette région-là, parce que la Bible nous dit qu'il s'asseyait à la porte. Ben, à la porte s'asseyaient les anciens et ceux qui dirigeaient la ville. Donc s'il s'asseyait là, c'est qu'il avait une voix qui portait. Alors on pourrait, ça est marqué cela. Il tourmentait continuellement son âme. Lot savait qu'il n'était pas à la bonne place. Il le savait. Mais au lieu de partir, au lieu d'avoir passé une semaine dans cet enfer et de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne veux plus être avec mon oncle, mais il doit y avoir une autre solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je reparte dans le monde. Il est resté. Mais comme il avait suffisamment de connaissances, ça c'est le danger de marcher un pied dans le monde et un pied, vous avez compris que je ne suis plus sur mon message, mais bon, au point où j'en suis maintenant, on a lâché les amarres, voilà. Hein. Mais au lieu de, ce qui se passe c'est qu'il savait qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et au lieu de s'interroger et de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ok, j'avais envie de me séparer de mon oncle et peut-être que j'estimais qu'il était temps que je fasse ma vie. Mais bon, j'aurais dû, je n'aurais pas dû venir ici. Il y avait peut-être d'autres endroits qui étaient moins alléchants économiquement parlant ou pour mon entreprise. Mais j'ai appris la foi, j'aurais dû y aller. Bien, il est resté suffisamment longtemps pour avoir une position d'autorité. Mais comme il en savait suffisamment, c'est horrible pour un croyant de connaître suffisamment sur Dieu, de connaître suffisamment sur qui il est en Christ pour nous, sous le Nouveau Testament, et de s'asseoir au milieu des païens, de se taire. Parce que c'était violent ce qui se passait là. Hein. C'était pas, ils ne négociaient pas là. Si vous avez lu un petit peu la Bible, c'était extrêmement brutal, extrêmement violent. Et il est resté là. Évidemment, il ne brillait plus. Mais à l'intérieur, la Bible, il était dit qu'il tourmentait quotidiennement son âme à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Alors, on pourrait dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Ça a tout à voir avec la foi, avec ce que je disais. Si tu sais que dans tes pensées, tu n'es pas là où tu devrais être, qu'est-ce qui se passe? Si tu en sais suffisamment, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras tourmenté. Un chrétien qui est tourmenté, parce qu'il est, il reste là où il ne devrait pas être, que ce soit physiquement, comme par exemple Lot, ou que ce soit dans ses pensées, c'est quelqu'un qui est tourmenté. Mais à vrai dire, ça ne s'arrête même pas là. C'est quelqu'un qui est tourmenté. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui a juste un petit coup de blues. C'est quelqu'un qui rentre en conflit avec son moi. Un conflit avec lui. Vous savez, c'est une chose d'être en conflit avec Dieu. Hein. Être en conflit avec soi-même, mais c'est horrible. Déjà, on pense qu'on a dit une parole qu'on n'aurait pas dû dire ou des choses qui sont insignifiantes. Mais quand quelqu'un reste dans un état où il est arrivé à faire un compromis vis-à-vis de la parole de Dieu, un compromis vis-à-vis de la connaissance qu'il a de Dieu, c'est quelqu'un qui va être tourmenté. Plus que cela, quelqu'un qui est tourmenté et qui ne fait rien pour que ça change. Alors en général, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent la prière. S'il te plaît, prie pour moi. Mais si tu restes assis là, c'est mes prières, elles marchent mes prières. Elles marchent. Non mais relax, parce qu'il se peut que je parle pour quelqu'un qui a besoin, qui est sur Internet, qui a besoin d'entendre cela. Hein. Mais ça, c'est la réalité, ça. Parce qu'on accuse Dieu. Il y a combien qui remettent en question la fidélité de Dieu ? Ou une autre version dit la foi de Dieu. Et nous avons vu ensemble que nous avons en nous la foi de Dieu. Nous avons cette capacité de croire dans ce que nous ne voyons pas de manière à le voir. Parce qu'il ne suffit pas de croire juste pour croire. Pourquoi est-ce que je vais croire ? Ben, je vais exercer ma foi, je vais croire pour voir. Je vais croire pour entendre, je vais croire pour que quelque chose dans cette dimension terrestre change. Je ne vais pas croire pour croire, ça n'a pas de sens. Mais que quelqu'un arrive à remettre en question la fidélité de Dieu à cause d'un défaut dans la cuirasse de sa foi ou de celle de quelqu'un qui l'a vu en disant « Ouais, mais tu comprends, pour lui non plus ça n'a pas marché, pour elle non plus ça n'a pas marché. » Écoutez mes amis, si vraiment vous voulez vivre par la foi, vous aurez des échecs. J'aimerais vous dire que c'est impossible, mais c'est juste comme cela. Parce que nous sommes comme des enfants qui apprenons à marcher. Je ne sais pas quelle idée vous vient en tête. Vous avez déjà vu, vous, un bébé ? On en a parmi nous. On ne se rappelle pas de notre propre marche, mais on a vu suffisamment d'enfants qui essaient de marcher. Et qu'est-ce qu'ils font ? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils tiennent sur leurs petites jambes et ils essaient de copier et ils... Et c'est bizarre, personne n'accuse Dieu. C'est bizarre, hein ? « Oh Dieu, tu n'as pas été fidèle, regarde ta foi en moi, elle ne marche pas. » Personne n'a accusé Dieu. Mais dans l'esprit, les gens le font. Qu'est-ce que l'on fait ? On dit « Ok, lui, Dieu, il n'a aucun problème. » Juste quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, Dieu n'a aucun problème. Est-ce que ça rassure quelqu'un ? Ça fait du bien de le savoir. Ça fait du bien de l'entendre quelquefois. Dieu n'a aucun problème. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu est Dieu. Mais comme on le ramène à notre dimension, on croit qu'il a tous nos défauts. C'est-à-dire, quand je dis qu'on croit qu'il a tous nos défauts, c'est celui qui doute croit que Dieu a ses défauts à lui. Il ne croit pas que Dieu a mes défauts, il croit qu'il a ses défauts à lui. Donc on a besoin des uns et des autres pour parfaire la connaissance et l'image de Dieu, vous ne croyez pas ? Alors, celui qui sait que Dieu est fidèle, celui qui a cette connaissance, et on a tous un minimum de connaissance parce qu'on a accepté le Seigneur. Et puis la connaissance, elle grandit. Donc la connaissance, elle grandit, ça veut dire que ma vie dans la foi et par la foi, elle va grandir elle aussi. Mais si tu pleures quand tu n'as pas quelque chose et que tu te mets à accuser Dieu et que tu choisis de rester là où tu sais que tu ne devrais pas être, je vais juste te dire ce qui va se passer. Ça va être des tourments. Maintenant, si vous vous souvenez de cette histoire de tourments, la Bible nous parle d'un homme qui était aisé. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ses affaires, mais toujours est-il qu'il a dû, il avait des dettes envers un créancier, des dettes qui étaient énormes, énormes. Et puis, il a supplié son créancier a eu compassion de lui et il a dit, je considère, c'est quoi ? Tiens, je déchire et je déclare, tu ne me dois plus rien. C'est simple, c'était des millions, tu ne me dois plus rien. Ah ! L'autre, il est sorti soulagé. Puis, quelque temps après, il a rencontré quelqu'un qui lui devait une somme d'argent qui était minime par rapport à la dette qui lui avait été remise. Et la Bible nous dit qu'il a fait preuve de cruauté. Ceux qui ont vu la scène en ont parlé à Dieu, c'est-à-dire en ont parlé à son maître. C'est vrai que nous, quand on voit des choses qui ne sont pas justes, bah, on a le choix de traiter le sujet personnellement, ou alors on a le choix de dire, tu sais Seigneur, j'ai vu telle personne qui maltraitait telle autre, et c'est juste pas possible Seigneur. Ça n'est pas possible que telle personne parle à telle autre. Ça n'est pas possible qu'il lui dise ça. C'est juste non. Et c'est ce qui s'est passé. Les serviteurs ont été voir le maître et ont dit, tu sais, hey, comment ça se fait là? Ben, on a entendu dire que tu as remis une grosse dette à quelqu'un, et celui-là, il est en train de faire un flan, il est en train de réclamer 3 figues sèches, langage contemporain. Et la Bible nous dit que le maître était en colère. Ce n'est pas simplement qu'il était en colère. La Bible nous dit qu'il a été livré à ceux qui tourmentent. Ah ah ! Ce qui veut dire. Et une autre version dit qu'il a été livré à des bourreaux. Ce qui veut dire que quand il nous est dit que Lot, écoutez bien, parce qu'il y a une connexion là. Vous ne savez pas où je vais, mais je sais où je vais moi. Quand il est dit que Lot tourmentait journellement son âme, c'est-à-dire c'était en ses pensées, il était tourmenté à cause de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Il restait là où il savait qu'il ne devait pas être, au vu de la connaissance qu'il avait. Ce n'est pas simplement qu'il se triturait les pensées. Oh là 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 là, c'est mal, oh là 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 là, c'est ça. C'est pas juste cela. C'est que grâce à la parabole du créancier, nous comprenons que ce sont des bourreaux qui sont derrière ceux qui tourmentent. Ce sont des entités. Ben, vous appelez ça quoi? Ben, on appelle ça des démons, mes amis. C'est-à-dire, restons suffisamment longtemps là où on ne devrait pas être. Et puis personne ne sait où tu es. Bah oui, il n'y a que Dieu qui nous voit. Je veux dire, je ne pense pas que vous ayez toute l'église qui vive avec vous 24 heures sur 24 et qui vive dans votre tête. Je ne pense pas. Restez là où vous êtes, sachant que vous ne devriez pas être. Vous êtes tourmenté, vous voyez que dans votre âme, ça ne se passe pas très bien. Il y a juste une chose intelligente et simple à faire, c'est de dire, Seigneur, je veux que tu m'aides. Je ne sais pas forcément que faire d'autre. Je ne sais pas que faire dans les 6 mois qui sont à venir. Mais une chose que je peux faire tout de suite, c'est je vais me lever et je vais sortir d'ici. Je ne vais juste pas rester ici. Et la Bible nous dit, celui qui reste, d'abord il finit par accuser Dieu. Je ne sais pas pourquoi je regarde dans ce côté, parce que le trône de Dieu n'est pas forcément là. Mais il finit par remettre en question la fidélité de Dieu, la foi de Dieu. Et à force de rester, c'est un choix. Vous avez remarqué que je suis sûre que vous avez même choisi la chaise sur laquelle vous vouliez être assis ce matin. Hein? Vous voyez un peu comme on est libre, à quel point on est libre. On reste là. Certains, ça va être on reste dans le passé alors qu'on ne devrait pas. D'autres, c'est on reste sur l'échec. D'autres, c'est on reste sur des incompréhensions. La Bible nous dit, il y a autour de nous de l'incrédulité. Elle nous dit, et quoi si quelques-uns ont manqué de foi? Il va y avoir des gens autour de toi qui vont manquer de foi. Ben, ce n'est pas une raison d'utiliser leur manque de foi pour te rebeller contre Dieu. Et si tu dis, oui, mais tu sais, si jamais tu es en train de me dire que, eh bien, il y a des fois où ça ne marchera pas ta foi. Ben non, parce que quelquefois on croit être dans la foi et on n'est pas dans la foi. Et alors, bienvenue dans le club. Moi, je préfère continuer à me nourrir de la parole de Dieu plutôt que de choisir de m'asseoir sur la chaise de l'échec et d'en plus de justifier la raison pour laquelle je reste là. Ouais, mais tu comprends, un tel non plus. D'accord, ben moi j'ai les yeux sur quelqu'un pour qui la foi a marché. Je sais que la parole de Dieu a la puissance de me changer et je vais apprendre à marcher par la foi. Plus, je vais apprendre à courir par la foi. Quoi que ça me coûte, peu importe, j'ai une destinée en Dieu et je vais me débrouiller pour laisser Dieu me changer. Mais une chose, je refuse d'accuser Dieu et je refuse de m'asseoir dans les tourments jusqu'au point, et je vais vous dire, c'est subtil. Vous voulez que je vous dise ? Parce que les démons, quand ils nous parlent, ils ne nous parlent pas à la troisième personne du singulier ou du pluriel, parce qu'il était question des bourreaux. Ils parlent à la première. Le diable, hein, quand il veut te mentir, quand la puissance des ténèbres veut te faire croire un mensonge, elle ne te parle pas comme un étranger. « Oh bonjour monsieur, écoutez alors, j'ai vraiment quelque chose à vous faire croire, j'ai quelque chose à vous dire, et attendez, laissez-moi parler parce que j'ai une puissance de conviction qui est épatante et c'est pas comme cela qu'il se présente. » Un démon qui se présente à toi, d'abord, il faut savoir que tu ne le vois pas. Et puis ensuite, vous savez que les pensées sont des paroles. Il suffit... contre une pensée qui n'est pas juste, il suffit de dire une parole qui est juste. Voilà. Mais quand... Où est-ce que j'en étais là du coup? Je suis passée à... Une pensée est une parole, mais il y avait autre chose avec les... Ah voilà, les démons, c'est ça. Les démons. Ils parlent à la première personne du singulier. Ça, ça fait partie de leur stratégie de séduction et de tromperie. C'est-à-dire, il vient... Je vais mourir. Si tu connais pas la vérité... Si tu ne sais pas que Dieu t'a promis une longue vie, et pas gravataire, hein, une longue vie forte, rassasiée. Tu sais, le style de sentiment que tu éprouves après un repas, mais alors gargantuesque, à l'italienne, un 15 août, et tu te lèves de table et tu portes ton ventre. Si j'en peux plus, si j'en peux plus, voilà. Si tu ne connais pas la vérité, n'importe quelle pensée qui vient à toi, je dis bien, toutes les pensées que tu entretiens ne sont pas de toi. Tu as des pensées qui viennent de Dieu, tu as des pensées qui viennent de toi, hein, en supposant qu'on réfléchisse, oui. Et puis, il y a des pensées qui viennent de l'adversaire. Les pensées qui viennent de l'adversaire, ce sont des pensées qui sont exprimées à la première personne du singulier. Donc ça va être « je ». « je ». « Je n'y arriverai pas ». Ben, je vais te dire, quand tu entends cela, pose-toi la question « Eh oh, mais qui a dit que je n'y arriverai pas ?» Dieu m'a demandé de faire telle et telle chose. Mais bien sûr que oui, j'y arriverai. Cette pensée n'est pas de moi. Mais quand quelqu'un entretient des pensées qui sont fausses, parce que tout ce qui a traversé la tête première personne du singulier, je et je et je, a été reçu comme étant la vérité, et que la personne entretient ce que la parole appelle des mensonges, et choisit de rester, bien, à un moment, ce sont les tourments, et à un autre moment, ce sont ceux qui ont inspiré ces pensées qui vont se présenter comme ceux qui tourmentent. Et là, c'est un autre degré. Ça ne veut pas dire qu'une personne perd son salut. Un jour, vous savez, à l'école biblique, vous m'avez entendu dire cela, mais bon, l'apôtre Paul, Pierre, disait « Je ne me lasse pas de vous répéter la même chose ». Ça, c'est la joie du pastorat. On peut répéter les mêmes choses. Mais Lester Samuel, qui était un apôtre, qui était vraiment utilisé par le Seigneur, surtout en Asie, un homme qui connaissait le royaume spirituel et qui... alors lui, un démon aurait pu se présenter avec un corps physique devant lui, mais il n'était pas impressionné. Vous avez déjà entendu parler de Smith Wigglesworth ? Et cet homme-là, un homme de Dieu qui était connu pour sa foi, et puis un jour il était dans un hôtel, et il se trouve qu'il avait, il était dans une chambre, il y avait deux lits. Lui était allongé dans son lit, puis s'est réveillé la nuit en sentant une présence malfaisante, une entité malfaisante, un démon. C'est rare que je parle des démons en plus. Hein. Rassurez nos visiteurs, c'est extrêmement rare. Mais je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Et il s'est réveillé avec cette sensation d'une présence malfaisante. Il s'est retourné et il a dit à cette présence malfaisante qu'il ne voyait pas, « Oh, ça n'est que toi, Satan !» Et s'est retourné et s'est endormi. Il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ah, maman ! Même pas Jésus, hein ? Maman ! D'autres auraient quitté la foi, d'autres auraient... Il faut juste le mettre à sa place. Et comme c'est quelqu'un, c'est un être très orgueilleux, lui et les siens... Il ne supporte pas d'être ignoré. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est ignorer ce que le diable fait dans votre vie. S'il voit que vous prêtez de l'attention, mais j'ai entendu les chrétiens, grâce à Dieu, pas ici, arriver dans une réunion d'un secteur, si tu savais ce que le diable m'a fait cette semaine, ben justement, non, je ne veux pas le savoir. Juste, je ne veux pas le savoir. Parce que ça n'a aucune importance. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait ? Mais en tout cas, écoutez, quelle que soit la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a fait bifurquer et rester sur ce verset-là, c'est qu'il est utile. Que oui, si la vie de la foi de quelqu'un t'inspire à aller de l'avant, alors dans ces cas-là, laisse-toi inspirer. Moi, je vais vous dire, il y a des gens qui ont vraiment une vie avec Dieu qui m'inspire. J'aime être juste à côté d'eux. Juste à côté d'eux, c'est leur présence. Vous avez remarqué, il y a des gens qui ont une telle vie avec Dieu, autour de la parole de Dieu, que quand vous avez passé un déjeuner avec eux, vous avez envie de rentrer à la maison et de manger du livre. Vous dites, je vais manger, je vais écouter des enseignements, je vais écouter la parole, je vais écouter la parole. Il y en a d'autres, vous êtes dans leur présence et vous n'avez qu'une envie, c'est, oh Seigneur, oh qu'est-ce que ça fait du bien de te parler. Oh et puis Seigneur, je veux te prier pour telle personne. Oh merci mon Dieu pour ce que tu as fait. Et on a envie de parler à Dieu. Il y en a d'autres, vous êtes avec eux et vous avez envie de parler à tout le monde de Jésus. Vous avez envie d'évangéliser. Pourquoi ? On porte tous quelque chose. Et il est vrai qu'on n'a pas envie d'être à côté de quelqu'un. On n'a pas envie de fréquenter quelqu'un qui porte l'incrédulité. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on supporte. Non ? Ben oui ! Mais bien sûr qu'on supporte. Et comme Marc disait tout à l'heure, eh bien, on reste accueillant. Si on peut aider, on peut. Et puis voilà. Mais il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui porte l'incrédulité et qui va semer autour des paroles qui vont amener les gens à douter de la fidélité de Dieu. Et ça, c'est juste pas normal, juste pas acceptable. Encore une fois, il y a des degrés dans le tourment. Il y a des degrés. Je vais vous encourager. Un, laissez-vous inspirer par ceux qui portent cet esprit de foi. Cet esprit qui dit, tu sais, Caleb, hein, il a mis des années et des années à avoir cette montagne qu'il avait demandé au Seigneur. À l'âge de 80 ans seulement, il l'a eu. Il a vu toute une génération. C'est à peu près 40 ans une génération. Il a vu toute une génération mourir, tomber comme des mouches. Et peu importe la raison pour laquelle ils tombaient. Hein. Certains, ils tombaient parce qu'ils avaient eu une mauvaise grippe. D'autres, ils tombaient parce que crise cardiaque. D'autres, ils tombaient parce que... Ça n'a aucune importance. Le truc, c'est qu'ils tombaient tous toute une génération. Et au milieu de cette incrédulité, contrairement à Lot, il est resté attaché à la parole de Dieu. Et l'incrédulité des uns et des autres, mais qui était rampante dans le camp. L'incrédulité pendant 40 ans ne l'a pas affecté. Ne me dis pas que tu n'es pas capable de rester fidèle à Dieu et de garder tes pensées dans le Seigneur, parce qu'il y a une parole qui n'a pas été exaucée, peut-être. Lui, il était au milieu de cette tribu-là. Et il faut que je m'arrête parce que j'ai un avion à prendre, hein. Je ne sais pas quelle heure il est, mais... Il est mal le cas, ok, ça va. Alors, oui, nous nous laissons inspirer par la foi des autres. Et j'espère que vous avez autour de vous au moins une personne qui a passé le test de la foi, qui est souvent le test de la prospérité, qui est resté fidèle à Dieu, qui vous inspire dans votre foi, qui a toujours une parole encourageante. Et puis, si vous avez des incrédules et que vous n'arrivez pas à les convaincre, s'il vous plaît, arrêtez de boire le café avec eux. Quelqu'un qui va être béni, là. Arrêtez ! Quand on peut aider les gens qui veulent être aidés, mais on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Ça, c'est un secret du pastorat que je vous livre tout de suite. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. C'est aussi simple que cela. Mais attention, il y a ceux qui tourmentent. Ah, ça ne commence jamais par une grosse oppression. Jamais ça ne commence comme cela. Et c'est juste par un choix que l'on a de remettre en question. Vous savez, c'est dur de ne pas avoir des exaucements. Moi, j'ai eu des exaucements qui n'ont pas été exaucés. Qu'est-ce que je fais ? Des prières ? Qui n'ont pas été exaucés. Qu'est-ce que je fais ? Ben, j'aime Dieu. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas me jeter d'un pont et enquiquiner tout le monde. Je ne vais pas le faire. Je sais une chose, c'est que plus je marche avec Dieu, plus j'ai des réponses. Et les réponses qui viennent de Dieu sont toujours la vérité et elles m'ont toujours libérée. Il y a des réponses, que ça nous fasse plaisir ou pas, on est obligé d'attendre pour les avoir. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus n'a pas tout dit à tout le monde. Jésus a dit certaines choses à Jean, qu'il n'a pas pu dire aux trois. Il a dit certaines choses aux trois apôtres, qu'il n'a pas pu dire aux douze. Il a dit certaines choses aux douze, qu'il n'a jamais pu dire aux 70. Et il a dit des choses aux 70 qu'il n'a jamais pu dire à la foule. Mais quand on marche avec Dieu, et quand on a suffisamment de bon sens pour dire, tu sais, hey, j'ai entendu ce que j'ai entendu, je sais que ça ne vient pas de Dieu, je me suis assis là et je refuse. Et vous savez, les tourments ne sont pas toujours d'ordre dépressif. Certains sont tourmentés à cause de l'argent. Certains sont tourmentés à cause d'une sexualité mal placée. Regardez des films porno et je vous garantis que rester assis là, et il y en a un qui est en train de rigoler. Certains, ils ne savent même plus si c'est eux qui pensent ou les mouches qui tournent autour. Ouais, le diable est appelé le prince Belzébul, c'est quoi, des mouches? Vous savez pourquoi on les tue, ces bestioles-là? Non, je plaisante. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur Jésus veut son Église. Et tant qu'on est sur cette terre, vous savez, je vais vous dire, il va y avoir des injustices. Et une des raisons pour lesquelles il va y avoir des choses qu'on ne comprend pas, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits dans notre chair. Dans notre esprit, être spirituel, nous sommes parfaits. Mais nous n'avons pas encore renouvelé notre âme. Nous n'avons pas encore soumis nos émotions. Il y a des tas de choses, nous avons besoin de continuer à grandir. Mais pendant que nous grandissons, eh bien, nous restons, nous protégeons notre cœur, nous protégeons la foi de Dieu qui est en nous. Nous ne nous laissons pas entraîner par l'incrédulité des autres. Nous disons, Seigneur, je vais continuer à croire. Peu importe, je vais continuer à croire. Reparlons de cet épisode de la Madeleine. Oh, tu avais dit, oui, j'ai cru. Vous vous rappelez, c'était ce bâtiment-là que l'on avait vu tout en haut du boulevard de la Madeleine et on était persuadés qu'on allait la voir et on ne l'a pas eu. Et alors, j'ai failli me tirer une balle dans la tête et sortir du ministère et insulter Dieu. Et... Non. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En ce qui me concerne, j'ai fait ma part, j'ai fait tout ce que je savais faire, je l'ai fait. Et entre-temps, j'ai eu d'autres victoires, figurez-vous. Voilà, c'est simple. N'oubliez pas, c'est celui qui n'abandonne pas, qui finit par voir la victoire, quoi qu'elle soit. Alors, vous avez eu des découragements, écoutez, ne restez pas assis là. Vous avez eu il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Et vous savez, quelquefois, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Il n'y a pas que, parce que franchement, il faudrait que je reste toute la semaine ici, mais quelquefois, nous ne sommes pas prêts à des choses que nous voulons recevoir de Dieu. Et il y en a, franchement, il vaut mieux pas qu'on les reçoive. Moi, je me souviens, il y avait une voiture, il y a des années de cela, j'avais commencé à comprendre comment croire dans les promesses de la parole de Dieu, le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, etc. Et il y avait une voiture que j'avais vue et j'ai dit, c'est celle-là, je crois, mon Dieu, tu me la donnes. J'avais commencé à confesser la parole, etc. Et j'étais tellement frustrée parce qu'elle m'était passée sous le nez. C'était la bonne occasion et elle m'était passée sous le nez. Ah, mais j'étais en colère. Hein. Et Marie-Hélène Moulin, qui est en colère, à l'époque, aujourd'hui, moi, voire pas du tout même. Mais à l'époque, j'étais furax. Puis j'en avais franchement besoin. Hein. C'était pas juste une petite option, c'était une nécessité. C'est le genre d'exaucement, tu dis, si je ne l'ai pas, je ne vis pas. Heureusement, je ne sais plus comment, mais j'ai appris que c'était une voiture qui avait été accidentée. Et la raison pour laquelle c'était une bonne affaire, devinez pourquoi. Et tu sais, une voiture qui est accidentée, on ne sait pas où ça nous mène. Je veux dire, aujourd'hui, je me présente devant vous, je suis en parfaite santé. Ça va, tout va bien, franchement, tout va bien. Mais j'aurais pu ne jamais entrer dans le ministère, j'aurais pu être paralysée. N'avoir même pas commencé la première partie de ma vie dans le ministère, allez savoir où j'aurais été. Alors, il est vrai que quelquefois, on râle parce qu'on n'a pas eu d'exaucement, Et mais quelquefois, il est bon de dire, tu sais, Seigneur, moi je crois. Tout ce que je... Déjà, tu n'as aucun problème, Seigneur. Ensuite, je t'ai demandé cela. Seigneur, je ne vois pas. Alors, ou bien tu me donnes une révélation, ou alors, Seigneur, je vais juste faire mourir cela. Quand ça fait des années, quand c'est des mois, mais quelquefois, il est bon de dire, Seigneur, je vais laisser mourir cette demande. Et très souvent, ce qui est le noyau ou le pivot de cette demande, c'est qu'il y a autre chose, ouais. Il y a autre chose derrière. Et quelquefois, on se dit, si je devais accepter que cette demande ne soit jamais exaucée, alors ça veut dire que ma vie avec Dieu va devoir prendre un autre tournant. Moi, je voulais me marier, les gens, quelquefois, ceux qui sont qui viennent à la classe des membres, quand on présente l'Église, j'en parle brièvement. Certains croient, ah, t'as jamais voulu, non mais... Et j'ai laissé mourir cette demande, parce que je savais ce que ça allait me coûter. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais la même chose. Je n'ai aucun regret. Ça me fait baver parfois, mais je n'ai aucun regret. Il y a des demandes qui doivent être sacrifiées sur l'autel. Oui, on exerce notre foi, mais à un moment, si ça ne vient pas et qu'on a attendu et qu'on a attendu, eh bien, on peut boxer en l'air, comme dit l'apôtre Paul, ou alors on peut dire, Seigneur, il y a juste une raison. Les années passent. Qu'est-ce qui ne va pas dans la demande? Juste, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous sommes ouverts? Tout en on a chanté ce chant-là, j'abandonne tout. Donc, Seigneur, est-ce qu'il y aurait une révélation que j'aurais besoin sur ma manière d'aborder la foi, sur la demande elle-même? Vous savez, quand on commence à douter de la fidélité de Dieu ou que la foi de Dieu est parfaite, on commence à remettre en question l'intégrité de Dieu. Ça veut dire quoi? Intégrité, ça veut dire entier. Dieu est entier. Et quand on commence, moi je ne veux pas toucher à l'intégrité de Dieu. Je refuse. Je refuse de toucher à cette intégrité. Et rien que le refus de toucher à l'intégrité de Dieu, m'aide à me taire quelquefois. M'aide à clac, 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 réorienter mes pensées quand je surprends en train de dire, mais... Et où tu vas là? Où tu vas là? Tu es en train de t'asseoir où? Alors ce message est différent. Je n'ai pas du tout l'habitude de prêcher ce genre de message. C'est vrai? S'il vous plaît, on a des amis visiteurs, s'il vous plaît. Église de la Bonne Nouvelle, dites, c'est vrai, elle a raison. Elle n'a pas l'habitude. Mais bon, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui bâtit son Église. Mais si vous vous trouvez assis là où vous ne devriez pas être, s'il vous plaît, levez-vous de là et partez. La grâce de Dieu sera là. Et à vrai dire, quand vous serez... Si Lot, vous savez, Lot aujourd'hui, on se rappelle de quoi? On se rappelle que ça a été quelqu'un qui avait la connaissance de Dieu et que c'est quelqu'un qui a fait des compromis après compromis, quelqu'un qui a flirté avec le monde. Et quel est le souvenir que l'on a de Lot aujourd'hui? Vous savez, j'étais avant-hier, j'étais en train, je ne sais pas pourquoi, non mais vous inquiétez pas non plus, mais non parce que certains disent, j'étais en train de mettre mon linge et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai dû penser à quelqu'un qui était mort, je ne sais pas, je me suis dit, pendant que j'étais en train de mettre mon linge à sécher. Et j'ai la bénédiction d'avoir des fils sur lesquels je peux éteindre le linge. Si vous saviez quel bonheur c'est ça, pour ceux qui n'utilisent que des sèches-linges. Et j'étais en train de me dire, tiens, qu'est-ce que tu aimerais que l'on mette sur ta tombe ? Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Mais j'étais en train de me dire ça. Certains disent, oh, prononce pas le mot mort, s'il te plaît. Mais non, parce que j'ai pas peur de la mort, donc je peux en parler. J'ai juste pas peur. Si tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de la maladie. Si tu as peur de la maladie, c'est que tu as peur de la mort. Je referme la parenthèse. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi ? Ben, regardez de quoi on se rappelle de l'autre. Moi, j'aimerais, elle a aimé sa génération. L'autre, on se rappelle de quoi ? Hein ? On se rappelle d'un gros mondain, de quelqu'un que les anges ont dû sortir par la peau du cou pour ne pas être jugé, qui a perdu la moitié de sa famille, enfin un loser, quoi, le gars, le loser. Je dis, bah, s'il est au ciel, mais alors, je veux dire que, ah, c'est Lot. Et devant la porte d'Abraham, il va y avoir une longue file. Je veux voir Abraham, je veux voir Abraham, je veux voir Abraham. Et alors, personne devant la porte de Lot. Non, mais ça va. T'as... Hein ? Même pas pour rire. Allez. Tu aimerais qu'on se rappelle de quoi ? De ta vie ? De ton influence ? Tu sais, est-ce qu'on va se rappeler de toi ou est-ce que maintenant on te connaît comme quelqu'un qui endure ? Quelqu'un qui subit des coups bas, quelqu'un quelquefois qui a trébuché, mais quelqu'un qui est toujours là. Vous savez, hier, et en se rendant à la cérémonie, avec ma sœur dans la voiture, elle était en train de me dire une réflexion et que j'ai entendue, d'ailleurs, je me suis faite aussi. C'est, vous savez, Pascal est resté fidèle au Seigneur. Quelquefois, vous voyez, d'ailleurs, Lisa, sa maman, le disait aussi plus tard dans la soirée. Quelquefois, vous voyez les gens, et vous voyez les gens qui chantent, vous voyez les gens là, et vous voyez les gens toujours là. Mais vous ne savez pas quelles étaient les bonnes raisons qu'ils avaient de ne pas être là. Et Pascal est quelqu'un qui a toujours été là. De quoi va-t-on se rappeler ? Quelle est ton influence ? Ben, je ne sais pas. Ce n'est pas des rumeurs, ça. C'est « on fait ». On fait notre propre réputation. Ben dans cette ambiance, là, 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 je suis sûr que quelqu'un doit dire, allez, vite, 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 pasteur, t'as ton là, aéroport, là. Vite, 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 vite. Mais il est bon, quelquefois, d'entendre ce genre de choses, là. Il est bon. Et la Bible dit, bien sûr, qu'à cause du manque de foi de certains, eh bien, certains ont remis en question la fidélité et la foi de Dieu. Mais à cause de la foi de certains, eh bien, on a pu voir la fidélité de Dieu. Et ça nous a boosté. Donc, soyons des hommes, des femmes de foi. Et quoi que ce soit qui se passe, on tient bon, on maintient le cap. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tout va très bien, à vrai dire.